France Culture.
Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
La méthode Coué, intuition et illusion. Un documentaire d'Héloïse Weiss, réalisé par Laure-Hélène Plancher. Premier épisode, guéris-toi toi-même.
Bonjour Dominique.
Bonjour Héloïse, bienvenue au parc Sainte-Marie.
Donc, on est dans un parc public, il fait un peu gris, il y a des gens qui font leur footing, qui marchent, et on est face à une statue, la statue d'Émile Coué. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
C'est une stèle en pierre, et au-dessus vous avez son buste. Sur la statue, je vous dirais qu'il est souriant. On le décrivait à l'époque comme un homme qui avait l'air jovial, bon, gentil, souriant, et donc un petit regard malicieux. Et on le décrivait comme ce bon monsieur Coué.
C'est une méthode qui ne convoque aucune image, ne suscite aucun intérêt, sauf peut-être de l'incrédulité à son évocation. Pourtant, si l'on gratte un peu la surface, une époque se distingue. Celle de la Grande Guerre. On voit surgir la ligne de front, les gueules cassées, les veuves et les fils morts pour la France. Et tandis qu'à l'arrière, l'espoir est mort, un pharmacien du nom d'Émile Coué va à contre-courant. Il a les yeux tournés vers l'avenir. Il promet une vie meilleure en une phrase. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et ça marche. Coué s'occupe des symptômes, des douleurs physiques ou psychiques, là où la médecine ne sait ni les voir, ni les écouter. Pas question en revanche de sonder les causes. Cette tâche, il la laisse à une autre pratique, la psychanalyse. Car Coué ne cherche pas à comprendre l'origine du mal, mais plutôt à en atténuer les effets. Mais que vaut une telle conception du bien-être ? Pour tenter de répondre à cette question, nous nous rendons à Nancy, là où vécut le fondateur de la méthode, accompagné de Dominique Bolucet-Sabiche, présidente de l'association Sur les pas de Coué et sophrologue.
Là, devant nous, de face, il y a écrit « À Émile Coué, 1857-1926 ». Et un petit peu plus bas en dessous, « À l'initiateur et à l'homme de bien en reconnaissance mondiale ». À côté, vous avez cette phrase « Ce n'est pas la volonté qui nous fait agir, mais l'imagination ». Et ça, c'était un de ces principes de la méthode Coué, qui disait que l'imagination est toujours plus puissante que la volonté. Sur la face latérale de l'autre côté, vous avez une autre inscription qui dit « L'autosuggestion consciente nous donne la maîtrise de nous-mêmes ». Donc ça résume, on va dire, un petit peu sa méthode Coué.
Pourquoi initiateur et reconnaissance mondiale ?
Alors, initiateur, parce qu'il a présenté la méthode Coué, il a présenté à toutes les personnes qui venaient le voir et au monde entier, on va dire, sa méthode et donc l'autosuggestion consciente. Il disait toujours « je n'invente rien » parce qu'avant lui, il y a bien d'autres personnes qui parlaient de la force de l'autosuggestion, etc. Mais lui, il l'a expliqué. Il a dit « je ne vous apprends rien, je vous explique juste comment ça fonctionne. » Et c'est tellement simple. D'ailleurs, c'était tellement simple à l'époque que les gens n'y croyaient pas. Mais il disait, si je vous le complique, vous allez dire, ah oui, je comprends mieux, sans forcément comprendre. Et puis donc, à l'homme de reconnaissance internationale, c'est parce qu'il a énormément voyagé. Il était aux États-Unis, en Russie, en Suisse, en Belgique. Et en plus, beaucoup de personnes venaient sur Nancy.
Ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, la volonté qui est la première faculté de l'homme, mais l'imagination. Chaque fois qu'il y a conflit entre elle et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte.
Dominique Bolucet-Sabiche, comment elle est née cette méthode ?
Alors, cette méthode est née, on va dire, un petit peu de l'intérêt qu'avait Émile Coué pour l'hypnose, pour le magnétisme. Dans ces années, donc 1880, 90, etc., il y avait un engouement pour l'hypnose. Et Émile Coué, donc, voyant un petit peu cette effervescence autour de l'hypnose, il s'est dit, tiens, je vais peut-être réfléchir à ce qui se passe dans cette technique-là. Cette méthode, elle fonctionne par la répétition de phrases. Tout d'abord, cette célèbre phrase, hein, « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux », il proposait de la répéter 20 fois de suite. Mais il disait « Si vous comptez, vous détournez votre attention, donc vous coupez en quelque sorte la suggestion ». Et c'est pour ça qu'il s'est dit « Tiens, je vais créer une petite cordelette ». Alors, ça ressemble un petit peu à un chapelet, c'est d'ailleurs pour ça que certains religieux étaient contre en disant « Mais il est en train de nous prendre notre chapelet ». Et il a utilisé cette petite cordelette en disant bien qu'il n'avait rien contre la religion. Au contraire, les personnes qui avaient la foi avaient d'autant plus de chances, de possibilités de croire en leur capacité. Donc c'était absolument pas contre la religion et ce n'était pas non plus contre les médecins. Il disait toujours « Allez voir votre médecin, achetez vos médicaments ». Parce que c'était un complément. Dans la guérison, vous avez trois éléments. Vous avez le corps médical qui va vous trouver ce que vous avez. Vous avez les médicaments que l'on peut prendre en complément. Et la troisième chose, c'était soi-même. Et c'est ça ce qui est important, c'est d'y croire en fait. Et donc cette phrase, eh bien, elle englobe tout. Dans cette phrase, il y a trois choses importantes. Tous les jours, c'est une notion de temps. À tout point de vue, là vous ciblez tous les domaines, que ce soit professionnel, de santé, vraiment tous les domaines. Je vais de mieux en mieux et là on a la progression.
Il met du temps à la trouver cette fameuse phrase.
Il a étudié pendant un certain temps pour bien trouver les bons mots et il a prononcé la première fois le 4 juin 1913, c'était dans la salle Blondelot à Nancy. Bien sûr, il suggérait aussi d'autres phrases pour des personnes qui avaient quelque chose de spécifique à modifier, à améliorer. Et dans ce cas, il leur donnait des mots bien précis pour qu'ils se programment, on va dire, positivement. D'où, effectivement, actuellement, la PNL, programmation neuro-linguistique, ou la pensée positive, la psychologie positive, qui sont un petit peu ces dérivés de la méthode Coué. John Lennon l'a utilisé dans une de ses chansons qu'il a écrite pour son fils, Beautiful Boy.
Christian Delon, vous êtes l'arrière-arrière petit-neveu d'Émile Coué.
Oui.
Où est-ce qu'on est ?
Alors ici, nous sommes dans la maison d'Émile Coué, dans cette grande pièce qui était un espèce de grand salon en fait. Coué vivait au-dessus et donc il recevait dans ce grand salon avec des moulures de plâtre, des cheminées, un magnifique parquet. Donc il pouvait recevoir une soixantaine de personnes ici. Et donc, il commençait par expliquer sa méthode, quelquefois en français, en anglais. Et après ça, donc je ne sais pas, ça pouvait peut-être prendre une demi-heure, une heure. Après ça, il y avait les cas qui se présentaient. Et donc, on était déjà dans le cadre d'une thérapie de groupe. Coué recevait toujours en groupe. Il y avait plusieurs lustres, il y avait une grande table au milieu. Et les gens étaient assis les uns à côté des autres, donc il y avait une cinquantaine de chaises. Et donc, il y avait un rituel qui était de distribuer déjà des cordes à nœuds à chacune des personnes. Donc, cordes à nœuds qui devaient utiliser 2 fois par jour, avec 20 nœuds. Donc, tous les jours, à tous les points de vue, je viens de mieux en mieux. Et il fallait le répéter 20 fois, le matin et le soir, tout en scandant un peu avec les nœuds.
Donc ici, on répétait ensemble la méthode.
Alors, il leur expliquait la méthode, bien sûr. Coué était bien clair, il n'était pas médecin, il ne pouvait pas soigner des maladies qui nécessitaient des soins. Par contre, ce qu'il faisait déjà, c'est que par l'autosuggestion, il permettait aux gens de mieux supporter leurs médicaments ou de prendre leurs médicaments.
La porte de la pharmacie s'ouvre. Une femme, elle souffre. Elle réclame des cachets, une fiole, n'importe quoi, quelque chose qui la soulage. Émile fait non de la tête, pas d'ordonnance. Elle insiste. Elle veut du laudanum. Il se tait, réfléchit un moment, lui adresse enfin ce sourire désarmant, sincère et commercial qu'on lui verra toujours plus tard. Sa voix est douce. Il demande un instant. Dans l'arrière-boutique, il prend de l'eau distillée, du sucre, du colorant. Sur le flacon, il écrit des mots savants, des dosages. Il revient, tend la chose à la dame. Attention, c'est très dangereux, 2 gouttes maximum. Le lendemain, la femme est de retour. Elle veut juste dire « Merci, le remède est une merveille ». C'est l'hiver, c'est l'automne, en tout cas c'est un grand jour. Une leçon qu'Émile méditera jusqu'à sa mort. L'imagination fait tout. Effet placebo, oui, il a compris ça. Qu'avant le remède, il y a le désir de remède et le besoin de croire.
L'histoire est connue, c'est là où il a commencé à redécouvrir l'effet placebo. Et c'est ça qui lui a petit à petit donné l'idée en disant « Mais finalement, il suffit peut-être de suggérer à certains moments des choses pour que ça fonctionne et pour que l'imagination, justement, permette d'aller mieux ou de guérir, etc. »
L'idée de sommeil crée le sommeil. L'idée d'insomnie crée l'insomnie. L'idée de crise d'asthme crée la crise d'asthme. L'idée de crise nerveuse crée la crise nerveuse.
Hervé Guillemin, vous êtes historien de la psychiatrie, vous avez consacré un ouvrage entier à l'histoire de cette méthode. Dans quel contexte est-ce qu'elle naît ?
En fait, Émile Coué, il fonde la méthode à la fin de sa vie. C'est assez rare pour être souligné à un moment où il est déjà assez âgé, dans les années 1910-1920. Donc lui, c'est plutôt un homme du 19e siècle. Ça, c'est important à savoir, parce que c'est quelqu'un qui adore les pratiques de magnétisme qui remontent à la fin du XVIIIe siècle, Mesmer, etc., qui a baigné, alors qu'il est un jeune pharmacien, dans la mode de l'hypnose, Charcot, 1880, etc. Donc lui, il se nourrit de ces pratiques. Il pratique dans son arrière-boutique, dans sa pharmacie. Et puis, il invente une méthode dans les années 1900-1910 qu'il va perfectionner, mais une méthode qui ne devient véritablement connue qu'au début des années 1920. Donc c'est un processus de maturation assez long. Donc on pourrait dire que la grande époque de la méthode Coué, finalement, c'est un petit peu avant la Grande Guerre et surtout après la Grande Guerre. Et ça joue un rôle très important dans la popularisation de cette méthode. Quand on arrive dans le dur de la guerre, 1916-1917, il y a beaucoup de morts, il y a Verdun, il y a les mutineries, etc. Et il y a un pharmacien à Nancy, donc pas très très loin du front, qui commence à dire, notamment dans la presse locale, que finalement on peut s'en sortir, qu'il faut arrêter d'être négatif. Et je me souviens d'un extrait de presse où on dit « la méthode Coué, c'est pas comme le spleen des Anglais, les Anglais qui dépriment, etc. Nous, les Français, il faut prendre exemple sur Coué, hein, quand on veut, on peut, il faut positiver et on va sortir de cette période atroce. »
C'est les mots difficiles, impossibles, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher d'eux, disparaissent complètement de votre vocabulaire. Ces mots-là ne sont pas français, vous m'entendez. Ces mots-là ne sont pas français, je vous le répète. Ce qui est français, c'est facile et je peux. Avec ces paroles, on a compris des prodiges.
Donc quelque part, il y a une coïncidence extraordinaire entre le message très optimiste de Coué, parce que fondamentalement c'est ça, hein, la méthode Coué, c'est l'optimisme qui guérit, et le contexte dans lequel ça s'inscrit, c'est-à-dire la guerre, et notamment la fin de la guerre et les difficultés des soldats. Et donc Coué, il accueille des soldats traumatisés par leur expérience de guerre, ça va faire partie des premières personnes qu'il va prendre en charge.
Sur les champs de bataille ou ailleurs, on s'arrange avec ses peurs et son courage. Je le constate depuis des mois. Les tremblements, les nécessités, les contractures des hommes que je soigne n'ont aucune cause organique. Les blessures, les cris ont été silencieux. Le choc intérieur s'est niché dans les corps. Leurs membres intacts se sont étrangement tordus comme sous l'effet d'une tension intime, d'une force inouïe.
On est face à une société traumatisée. Et donc, quelle réponse elle offre en fait cette méthode ?
Alors, Émile Coué, par rapport aux soldats traumatisés par la guerre, il va tenir un discours spécifique, c'est-à-dire qu'il va en faire, je dirais presque, les cobayes de son expérience lorsqu'elle débute, et de sa thérapie lorsqu'elle débute. En France, comme à Londres, lorsqu'il va commencer à développer à l'international sa thérapie, c'est des soldats qu'il met en scène des soldats mutiques, des soldats atteints de cécité, des soldats paralysés, etc. Il met en scène ça pour montrer que sa thérapie peut servir sur cette population traumatisée. Parce qu'il se trouve que pendant la guerre, on ne sait pas du tout comment faire avec ces gens-là. La notion même de traumatisme que vous employez, elle est anachronique, quoi. Si vous voulez, le traumatisme de guerre, certains psychologues la discutent, mais la plupart des neuropsychiatres de l'époque, ils considèrent que ça n'existe pas. C'est soit des gens qui ont été blessés physiquement, il y a une lésion à chercher dans le corps, soit c'est des gens qui sont un peu des simulateurs, un peu inconscients, voire pire, des simulateurs conscients, c'est-à-dire des déserteurs, quoi. Et donc, du coup, la méthode Coué, comme d'autres à cette époque-là, c'est un discours sur ce qu'on n'arrive pas à expliquer, qui est cette symptomatologie un petit peu inédite, massive, chez des hommes. Ça aurait été chez des femmes, on aurait parlé d'hystérie facilement, chez les hommes, et qui pose plein de questions, en fait. Donc, une espèce de réponse, pas très théorique, hein. Vous avez vite compris que Émile Coué, c'est pas un grand théoricien, mais une réponse pratique à un des grands mots du moment, quoi.
Ça marche auprès de qui d'autre ?
Alors, il y a deux clientèles différentes, selon les époques, pour la méthode Coué. La première, avant la Première Guerre mondiale, c'est une clientèle très populaire d'ouvriers, qui s'adresse à un guérisseur local. Ça, c'est très clair. Après la Première Guerre mondiale, ça change considérablement. Le public s'internationalise, se féminise, et ça touche des milieux plus bourgeois, plus aristocratiques. J'ai retrouvé à la BNF des petits bouquins rédigés par des aristocrates anglaises au début des années 20 et qui disent comment elles ont été conquises par Émile Coué. Bon, ça doit pas complètement surprendre, hein. J'ai l'impression que la clientèle d'Émile Coué reprend un petit peu ses clientèles de l'hypnose du 19e siècle. Et puis ça s'élargit encore un peu plus après parce que Émile Coué change de discours et commence à s'adresser à ceux qui présentent des troubles psychologiques, qui sont déprimés parce qu'ils ont une maladie chronique, etc. Et des tuberculeux très très malades, parfois en fin de vie, hein, faut bien le dire, ou des gens très très mélancoliques, très déprimés, qui n'avaient pas, en quelque sorte, de possibilités de consultation de psy en cabinet, quoi. Ça n'existait pas dans les années 20 ou très peu.
Je souffrais d'une neurasthénie fort aiguë depuis 2 ans. Grâce à votre excellente méthode, j'ai pu guérir, et cela très rapidement.
Pour vous remercier de tout cœur du grand bien que votre méthode m'a procuré. Avant que je n'aille vous trouver, j'avais grand peine à faire 100 mètres sans être
essoufflé. L'état physique s'est également amélioré et actuellement, je me trouve très bien sous tous les rapports.
Maintenant, je parcours des kilomètres sans fatigue. L'asthme dont je souffrais tend à disparaître complètement. Je vous prie d'agréer le témoignage de ma reconnaissance pour le grand bien que vous...
J'ai trouvé en vous une aide précieuse et providentielle.
Je vous écris pour vous remercier du grand bien que m'a procuré votre livre. J'étais atteint d'une dépression nerveuse qui déterminait chez moi une neurasthénie profonde.
Vous avez été pour moi l'appui que je souhaitais.
J'étais devenu incapable de diriger convenablement ma vie quand je vis une revue parlant de votre livre. Et je me mis à pratiquer la méthode d'autosuggestion indiquée, ce qui me procura un bien immédiat.
Je travaille maintenant dans un autre esprit et je suggère à mon inconscient de rétablir l'équilibre physique.
Maintenant, je suis tout à fait frais, dispo et joyeux et je suis devenu optimiste.
Vous comprendrez mieux ma reconnaissance quand je vous dirai que diabétique avec complications rénales, j'ai subi plusieurs crises de glaucome et que mes yeux reprennent leur souplesse et que l'état général s'est amélioré.
J'ai passé votre méthode à de nombreuses personnes qui, pour la plupart, en ont tiré un grand profit. Plus j'y réfléchis, plus je suis émerveillé de son efficacité et de sa simplicité. Le pouvoir, pour ainsi dire, illimité que nous avons en nous-mêmes, nous rend réellement maîtres de notre destinée.
Me sentant de mieux en mieux depuis que je suis la méthode de l'autosuggestion, je tiens à vous en remercier bien sincèrement. La lésion au poumon a disparu, le cœur va mieux, plus d'albumine, en un mot, je me sens très bien. Mademoiselle L, à Richemont.
Paul C, Nancy.
Mademoiselle R, ici les Moulineaux.
P.F. Canley-Vale, Australie.
Mademoiselle Thérèse, Chalon-sur-Saône.
Damien Karbovnik, vous êtes sociologue. Comment vous expliquez le succès de cette méthode ?
La méthode est simple. Elle n'est pas simpliste, elle est simple. Elle est relativement accessible à tout le monde, peu importe le niveau d'études, peu importe aussi l'accès, même si de fait hein, les gens vont voir Coué en personne, hein, à côté de Nancy, où ils vont le voir quand il fait ses présentations. Mais c'est une technique qui peut s'employer un peu partout, en n'importe quelle circonstance, et qui surtout peut être pratiquée par n'importe qui. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pratique et qui explique aussi son succès. En même temps, le succès peut aussi se comprendre dans la mesure où la méthode est efficace. En tout cas, on a un certain nombre de témoignages qui montrent bien que les gens sont satisfaits. Et du coup, on a cette idée qu'on va pouvoir réellement régler ces problèmes. Et je dis bien ces problèmes, quels qu'ils soient, finalement, parce qu'on constate bien que ceux qui vont consulter Koué, ils vont pour des motifs très, très différents. Donc, on a cette idée qu'on va pouvoir résoudre rapidement un problème et... On voit bien qu'il y a là une demande finalement très forte de la population de trouver des solutions sans forcément devoir attendre très longtemps ou suivre des traitements très longs, très douloureux ou même aux résultats aléatoires. Donc on a vraiment cette idée-là. Et puis après, la méthode Koué engage quand même le phénomène de la croyance. Et le vocabulaire qu'emploie Koué, c'est celui, on va dire, de la psychologie, même si on peut débattre de la pertinence sur le plan psychologique de sa méthode. On a là finalement quelque chose d'assez rassurant pour les éventuels patients, puisque on se retrouve à faire des rituels. On a des gestes qui correspondent finalement à ce qu'on pourrait faire lorsqu'on prie, lorsqu'on participe à un culte, mais on n'a pas toute la dimension religieuse derrière, on n'a pas la contrainte un peu des dogmes, et surtout, on tend vers quelque chose d'efficace pour soi, au niveau individuel et à effet immédiat.
Ce soir, demain soir et tous les soirs, aussitôt que vous désirerez vous endormir, vous vous endormirez. Et jusqu'au lendemain matin, jusqu'à l'heure que vous vous serez fixé vous-même pour votre réveil, vous dormirez d'un sommeil profond, calme, tranquille, exempt de cauchemar, au sortir duquel vous vous sentirez tout à fait frais, tout à fait dispos.
On a un peu un produit hybride qui correspond tout à fait à l'époque, finalement, où dès la fin du 19e, dès le début du 20e siècle, la religion a perdu un peu de sa superbe, même si elle structure encore les mentalités. Mais on a pris un peu ses distances, donc la religion n'apporte plus forcément la confiance sur le plan de la santé, notamment parce qu'on se sent un peu démuni et on voit bien qu'il n'y a pas trop de solutions. Puis d'un autre côté, on est dans un espace où... la science peine encore, la médecine peine encore à tout résoudre, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup la méthode Koué c'est un peu à l'intersection, c'est-à-dire qu'on va reprendre des mécanismes de la religion et on va intégrer une apparence scientifique, médicale. On va un peu finalement concilier les avantages de la religion et de la médecine, de la psychologie, pour proposer un produit intermédiaire qui satisfait finalement les attentes et la compréhension du monde de l'époque.
Là, nous retournons dans la rue Jeanne d'Arc,
Dominique Bolussé-Sabiche,
où nous allons passer devant la maison d'Émile Koué. La maison est située au 198 rue Jeanne d'Arc. À l'époque, c'était le 186. En fait, d'autres maisons se sont rajoutées pour compléter la rue. Nous voilà maintenant au cimetière du Sud à Nancy. Et je vais vous conduire vers la tombe d'Émile Koué, où repose la famille Lemoine, la famille Gomien et Émile Koué, son épouse. Je réinstalle un petit peu le pot de fleurs là, qui vient de tomber sur la plaque qui a été déposée par l'association suisse et sur laquelle est écrit donc, en mémoire d'Émile Koué, fondateur de la méthode Koué et de l'autosuggestion consciente. « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Et il y a également écrit « Le temps passe, la méthode Koué reste. »
Il est mort quand, Émile Koué ?
Émile Koué est décédé le 2 juillet 1926. Alors, Émile Koué fumait beaucoup. Hein. On le voit souvent sur les sur des photos avec sa cigarette. On pense que c'est peut-être les effets du tabac, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, il est revenu de ses voyages. Alors le dernier voyage qu'il a fait, c'était en Alsace, à Strasbourg, Saverne. Après, il est passé aussi en Lorraine, vers Sarreguemines. Et il en est revenu très fatigué. Il avait déjà eu une première alerte quelque temps avant à Londres, où il a eu un malaise. Mais il disait, ça va, tout va bien.
Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Et donc, c'est là, en rentrant de ses dernières conférences, qu'il est tombé malade, une forte bronchite, et finalement, il est décédé chez lui à la maison, donc entouré de sa famille, le 2 juillet 1926.
Alors, vous me disiez, il y a les traces de la Suisse qui a appliqué la méthode Coué. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui auraient rendu hommage ?
Oui, à la mort d'Émile Coué, les Américains ont déposé cette plaque qui représente une palme et sur laquelle est écrit « Au regretté maître Émile Coué ». Et là également, vous avez une couronne déposée par l'Institut Coué de Belgique sur laquelle vous voyez écrit « Institut Coué et ami de Belgique ». Son épouse est décédée bien plus tard, 28 ans plus tard. Mais elle a toujours continué à pratiquer la méthode Coué. Et donc, les personnes continuaient à venir dans la maison rue Jeanne d'Arc. Et alors, il faut savoir qu'Émile Coué avait enregistré un disque. Et donc, il passait le disque, il vendait ce disque avec la méthode Coué. Donc, les personnes écoutaient Émile Coué parler de sa méthode et de la pratique, en fait. Alors, un petit détail, c'est que Madame Coué n'accompagnait jamais Émile Coué dans ses voyages. Elle restait toujours à la maison. Elle répondait des fois aux courriers, elle recevait les personnes. Et Émile Coué, lui, il adorait les voyages, hein, la preuve, parce qu'il partait partout, tout le temps, dans tout le monde. Et il faisait des conférences. Au décès, selon l'Argus de la presse, il y a eu 1500 articles qui sont sortis le jour de la mort d'Émile Coué. À travers le monde, 1500 articles qui disaient « Émile Coué est décédé », etc. Et le jour de l'enterrement, qui a eu lieu le 5 juillet, ils ont dû prendre deux voitures remplies de fleurs, parce qu'en fait, il aimait beaucoup les fleurs, il aimait beaucoup jardiner. La tombe était recouverte de fleurs et c'était quelque chose de phénoménal. Il y avait énormément de monde, hein, même des Américains qui avaient fait le déplacement. Il y avait toutes les personnalités de Nancy, le maire de Nancy, des médecins, des religieux qui étaient là. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable ce jour-là.
C'était La méthode Coué, intuition et illusion. Premier épisode, guéris-toi toi-même. Avec Dominique Bolucet-Sabiche, présidente de l'association Sur les pas de Coué et sophrologue. Christian Delon, arrière-arrière-petit-neveu d'Émile Coué. Hervé Guillemin, historien de la psychiatrie. Damien Karbovnik, sociologue. Lecture d'extraits du roman La vie meilleure d'Étienne Kern et de correspondance par Marlène Goulard et Vincent Domenach. Extrait du film Les fragments d'Antonin, réalisé par Gabriel Lebaumin. Archivina, Clary Monac. Documentation musicale, Antoine Vuyoz. Prise de son, Alexandra Bergel, Stéphane Touvenin, Adrien Landivier, Jean-Baptiste Etcheparibord. Mixage, Claire Levasseur. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire d'Héloïse Weiss, réalisé par Laure-Hélène Plancher. À suivre, second épisode, Nul n'est prophète en son pays.